Vous écoutez RTL.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans le meilleur de Confidentiel spécial été sur RTL. On va passer une heure ensemble pour explorer le destin d'une célébrité, mieux comprendre l'accession au succès, la chance, les rencontres, le talent, essayer aussi de saisir comment et pourquoi, à un moment donné, la mécanique de la réussite s'est enrayée. Comment l'ombre a remplacé la lumière. Lumineuse, c'est bien l'image que donne cette chanteuse française, une voix exceptionnelle, une volonté à toute épreuve et une incroyable foi en la vie, malgré les coups reçus, au propre comme au figuré, les désillusions et les bonheurs perdus. Amoureuse pour le meilleur et pour le moins bon, une heure sur son épaule. Véronique Sanson, dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
RTL Confidentiel.
Véronique Sanson.
Véronique Sanson a passé sa vie à s'évader. Mille fois partie, et comme tous les grands voyageurs, mille fois revenue à son point de départ, dans les pas de cette enfance qui n'a jamais cessé de nourrir ses rêves. C'est dans le 16e arrondissement, les beaux quartiers de Paris, qu'elle a grandi. Véronique, petite blonde fluette, 2 ans de moins que sa sœur Violaine. Les Sanson sont de grands bourgeois. Le père, René, avocat, et son épouse Colette sont des héros de la Résistance. Ils se sont connus au sein du réseau du Musée de l'Homme. Pas des héros de 1944 et demi, a toujours rappelé Véronique Sanson, des héros de la première heure. Colette excellait dans le maniement des explosifs, le sabotage des trains et des bateaux. René était un as du chiffrage et des messages secrets. Comme tous les parents, ils espèrent pour leurs deux filles une trajectoire rectiligne, des études parfaites, une réussite professionnelle éclatante. Surtout René Sanson, pas vraiment du genre à transiger avec les principes. Un homme qui peut même se laisser gagner par des accès de violence. Comme ces gifles qu'il distribue quand Véronique et Violaine écorchent au piano une sonate de Bach. Quand les devoirs ne sont pas faits ou encore quand elles se tiennent mal à table. Les filles Sanson ne lui en tiendront jamais rigueur. Elles, qui auraient pu garder un goût amer de ces années-là, continueront de vouer une admiration éternelle à cette écrasante figure paternelle. Véronique vit pourtant K1K cette intransigeance. Une période d'anorexie, une méningite aiguë qui la plonge 5 jours d'affilée dans le coma et lui laissera un héritage des trous de mémoire, l'école buissonnière des semaines durant. La pension à 15 ans, très loin de Paris, en Angleterre, pour la remettre dans le droit chemin des études, mais où Véronique Sanson, pour la première fois, craque et disparaît. Première fugue, qui plonge dans l'inquiétude toute la famille. Un avis de recherche international est lancé. Interpol retrouvera la petite Française en Écosse et la rapatriera à Paris. Curieux mélange de rigidité et de bohème que cette famille Sanson. D'un côté, une vie réglée comme du papier à musique. Déjeuner, dîner à heure fixe, exercice physique, week-end chez une grand-mère à Samoa-sur-Seine et vacances d'été en Espagne. « Mon père et moi, nous étions vraiment très semblables », raconte Véronique. « Chez nous, on s'appelait les extrêmes et les moyens. Maman et Violaine étaient les moyens, papa et moi, les extrêmes. » C'est la place aux idées larges. Un peu de droit pour Violaine, un peu de philo pour Véronique. Les parents Sanson comprennent très vite que leurs filles ne fréquenteront jamais les bancs des grandes écoles de la République. Surtout Véronique, la cadette, c'est la plus imprévisible et sa fugue en Angleterre est encore dans tous les esprits. Par hasard et par chance, il y a la musique, ce piano qui trône dans le salon, cet appartement confortable qui vit aux notes de Chopin et de Debussy. Les parents ont toujours encouragé les filles à faire courir leurs doigts sur ce clavier. Et puis il y a aussi ces disques ramenés par René Sanson du Pérou, d'Afrique du Sud, des États-Unis. C'est la fin des 60s, le rock, la pop, les Stones, les Bee Gees et Scott McKenzie envahissent les radios.
All I want to do is look in your eyes.
RTL Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
On marque une première respiration dans ce confidentiel Véronique Sanson sur RTL pour revenir et explorer les premiers pas, les premières années de cette rockeuse qui enchaînera bientôt les tubes. On en parle avec vous, Bernard de Bosson. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour Jean-Alphonse, bonheur d'être en retour sur cette belle maison.
Et c'est un plaisir de vous accueillir, Bernard de Bosson. Vous avez été, on le rappelle, un longtemps producteur et découvreur de multiples talents de la chanson française, Polydor, Barclay, WEA avec Warner. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de ce milieu. Et puis, on ne peut pas tomber mieux aujourd'hui, puisque c'est vous, on vient de le raconter, qui a découvert Véronique Sanson. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette première rencontre ?
La première rencontre avec Véronique, c'était dans le noir. J'avais entendu parler d'une jeune femme qui avait du talent, mais bon. Et un beau jour, on était au tout début de Warner, j'avais monté le 1er février 1971, on était au mois d'août. Je suis arrivé dans un studio de maquette complètement pourri, rue de l'avenue d'Avagram, un petit studio avec un piano dedans, un quart de queue. Tout était dans le noir et j'ai entendu une voix et un piano qui chantaient Amoureuse. Et je vous le dis, comme je l'ai vécu à l'époque, je suis tombé instantanément en larmes.
Et vous l'êtes toujours aujourd'hui.
Je suis toujours bouleversé de ce que j'ai entendu. Et là, je me suis tourné vers Michel Berger. Je lui ai dit, je ne sais pas qui elle est. Si on ne la signe pas, je vous préviens, je vous tue les mecs.
Alors, vous allez la voir donc 2 mois après en chair et en os cette fois. Qu'est-ce que vous vous dites tous les deux ?
Eh ben d'abord, moi, je ne savais pas si elle était petite, grande, noire, blonde, vieille, jeune. Je ne savais rien. Et je vois arriver une jeune fille, puisqu'elle avait 23 ans, 24 ans, que je trouve ravissante. Elle voit un monsieur qu'elle attendait avec un costume 3 pièces. Je sais pas pourquoi, elle était persuadée que j'aurais un gilet. Je n'avais pas de gilet, j'étais venu avec une rose, comme un gamin. Michel était là au début de l'entretien, il a dit « je vous laisse ». On a dîné ensemble, et après je lui ai dit « chiche qu'on va à Deauville, on se met les pieds dans l'eau, on vient ». On l'a fait, et en même temps on écoutait l'album de Randy Newman qui venait de sortir avec Sail Away. On s'est fait ça, on s'est fait 3 heures et demie de route aller-retour. Mmh. On a fait ce qu'on avait dit, après on s'est dit « bon, on peut y aller ». Et après on a monté un contrat.
À l'époque, vous l'avez évoqué, elle est avec Michel Berger, ce couple Michel Berger-Véronique Sanson.
Je découvre un couple professionnel. Et je découvre un couple qui a énormément de choses en commun. Et je vais même aller très très loin, c'est que quand vous regardez l'écriture de Véronique et l'écriture de Michel, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Ils ont appris à travailler ensemble. Et ils se sont aperçus, en comparant leur musique, qu'ils avaient des tas de points de commun. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis il faudrait quand même dire une chose, une bonne fois pour toutes, que Michel Berger n'a jamais écrit une seule chanson pour Véronique Sanson à l'époque. Il se trouve que Michel, qui était un mélodiste formidable, un compositeur extraordinaire, était littéralement mais sidéré par la capacité invraisemblable de création de Véronique en termes de composition et d'écriture de texte. Elle composait à une vitesse invraisemblable, quoi.
C'est ça, oui.
Je pense qu'ils rivalisaient un petit peu ensemble. Mm-hmm. Tiens, regarde ce que j'ai fait. Oh, montre-moi cet accord, etc.
De quoi elle a envie, la jeune Véronique Sanson ? À quoi elle rêve, à ce moment-là ? Est-ce qu'elle veut devenir une star ?
Non, elle veut véritablement faire connaître sa musique, ça c'est sûr. On se disait aussi, quel dommage qu'elle n'aille pas plus loin. Moi j'avais organisé un programme pour qu'elle devienne une star, parce que les Américains et les Anglais, à commencer par Elton John, étaient tous sidérés par le talent de cette fille. Dès le début, Françoise Hardy a dit, redit, il y a eu avant Véronique Sanson, il y a eu après Véronique Sanson. Véro, c'était une révolution. Personne n'avait jamais fait avant. Bien sûr, il y a eu Barbara. Et vous savez ce que disait Barbara de Véronique, qu'elle adorait. Barbara disait de Véronique, elle, c'est la grande.
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc,
dans ta robe de mariée, toi, l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes, derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile. L'espoir de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compté de nouvelles étoiles, compté de nouvelles étoiles, n'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte la bagatelle, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles.
RTL Confidentiel. Jean-Alphonse Richard.
Véronique Sanson n'a pas tout à fait 18 ans, mais elle sait confusément que ce monde est le sien.
Now I found that the world is right.
Avec sa sœur Violaine et un ami d'enfance, François Bernheim, elle a monté un petit groupe. Le nom, les Roches-Martin, a été déniché au hasard dans l'annuaire téléphonique. Quelques chansons yéyé surfant vaguement sur le style Françoise Hardy.
Seul avec vous deux, j'étais très heureux. Deux femmes pour moi, j'étais le pacha. Pourquoi me dites-vous
ça toi qui...
Le succès reste pour le moment familial, réservé au salon où René et Colette Sanson reçoivent leurs amis. Mais pas n'importe lesquels.
C'est toi qui as gâché.
Ce jour-là, René Sanson est bien décidé à donner un coup de pouce au destin.
Il n'y a pas d'émotion forte dans notre vie.
Et à aider, sans rien dire, ses filles. Véronique lui a dit qu'elle voulait faire de la musique. Il lui a tout de suite répondu. Fais de la musique, mais sois la première. René Sanson a donc demandé à l'une de ses relations, le président de Pathé Marconi, de passer prendre un verre. L'invitation n'a bien sûr rien d'innocent. Le PDG a écouté les Roches-Martin, leur a donné tout de suite rendez-vous et leur a fait signer le lendemain même un petit contrat. C'est comme cela, tout simplement, que Véronique Sanson a posé le premier pas sur le chemin de la célébrité.
Sans choc, toujours pareil. Pour toi, la vie continue.
À la maison de disques, elle a rencontré deux jeunes garçons qui ont carte blanche pour défricher la route de la nouvelle pop française. Claude Michel Schoenberg et Michel Berger, avec qui, toute petite, le hasard de la vie, Véronique Sanson avait déjà partagé les bancs des mêmes écoles. Cette fois, c'est le coup de foudre. Berger et Sanson sont immédiatement amoureux l'un de l'autre. 5 années autour d'un piano. Une romance où la chanson suffit à emplir l'espace de leur vie. Une mélodie qui chasse l'autre. Avec Michel, on composait une chanson tous les 3 jours, raconte-t-elle. Les mots venaient sans souci, alors que je n'avais rien de profond à raconter. Il est sans doute ici le secret de cet accord parfait entre la chanteuse et le compositeur. Avec Michel Berger, Véronique Sanson n'a jamais connu le vertige de la page blanche. Une angoisse qui pourtant la hante depuis l'enfance quand, en famille, au traditionnel dîner de la Saint-Nicolas, elle devait écrire un petit poème et le réciter en public. Cette peur du vide, une fois loin de Berger, ne cessera de la poursuivre. Une phobie. Véronique, qui tremble à l'idée de ne plus trouver ses mots, de ne plus savoir écrire, qui a la sensation de perdre la mémoire. Pour se rassurer et fuir ses démons, elle se réfugiera plus tard dans l'alcool. Pour le moment, avec Michel Berger qui la guide, elle se sent libre. Aucun obstacle, aucun frein à sa créativité et à son envie d'exister. Avec lui, Véronique Sanson fait l'apprentissage de son nouveau métier. Elle écrit d'abord pour les autres, comme la chanteuse Isabelle de Funès, nièce de l'acteur. Puis enregistre un premier 45 tours.
À toutes choses gaies, choses tristes, le printemps est là.
Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Et après 5 ans de patience, Pathé Marconi se sépare de cette chanteuse qui n'a pas trouvé son style, ni rock, ni variété, et qui de toute façon est tellement atypique, tellement à part, qu'elle ne fera jamais une grande carrière. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais de l'ombre à la lumière, il n'y a parfois que quelques marches, un concours de circonstances, une visite dans un studio. Ce jour-là, le producteur Bernard de Bosson vient voir Michel Berger qui lui fait écouter une toute nouvelle voix, une toute nouvelle chanteuse.
Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin.
Amoureuse, fait chavirer de Bosson, lui tire les larmes. Il n'a jamais connu une telle émotion depuis le concert de Ray Charles au Palais des Sports 10 ans auparavant. Bientôt, Bruno Cocatrix, le patron tout-puissant de l'Olympia, lui glissera à l'oreille. Cette fille, c'est Piaf, elle chante sa vie.
Je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête.
Véronique Sanson écrit bel et bien les chansons de sa vie, des bouts de nostalgie, des rires d'enfance, des rêves de voyage.
S'il te plaît, je voudrais aller à Bayeux.
Avec Bernard de Bosson, elle a signé chez Elektra, le label de Jim Morrison, et enregistré en 10 jours son premier album. On l'entend sur les radios. Sa voix ne ressemble à rien de ce qui existe, un mélange de rage et de douceur, d'emprise et d'abandon. Le succès ne tarde pas, même si les journalistes qui découvrent ce nouveau talent déchantent. Tellement timide et mal à l'aise qu'elle n'a rien à dire, répond juste par oui ou par non. Denise Glaser, qui fait alors la pluie et le beau temps dans la variété française avec son émission Musicorama, se retrouve face à une jeune femme incapable de prononcer une phrase. Elle, qui rêvait de rester cachée, de composer dans le cocon des studios, doit désormais affronter les autres et surtout le miroir de sa propre image. Elle n'y était pas préparée, pas plus qu'elle n'imaginait de devoir un jour monter sur une scène. « J'étais tétanisée », se souvient-elle quand elle raconte son premier concert en première partie de Guy Mardel à la Tour Eiffel, face à des Japonais dissipés qui s'intéressent davantage à ce qu'ils ont dans leurs assiettes qu'au vibrato de la française. Tremblante, décomposée une autre fois au salon de l'agriculture, où des hommes essaient de monter sur scène. Doublure lumière de Claude François, de Julien Clerc ou encore de Michel Polnareff. Elle les précède, chante dans une quasi-indifférence face à un public venu exclusivement applaudir la star du jour. La scène ne sera jamais un moment naturel pour Véronique Sanson. Face à la foule, elle aura toujours ce bref instant de recul, le réflexe du plongeur qui, pour la première fois, se retrouve au bord de la falaise avant de se jeter dans le vide et de goûter à l'exaltation.
Fatigué, tu es toujours oué à un bon verre de vin.
Bernard Song, l'une des chansons de Véronique Sanson dans Le meilleur de Confidentiel spécial été consacré aujourd'hui à la chanteuse française. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel, Véronique Sanson.
Un homme qui ignore tout de Véronique Sanson, de ses peurs et de ses désirs, a écouté Amoureuse. Il a les cheveux longs, des favoris qui dévorent ses joues, porte des chemises à carreaux et des Santiago. C'est Stephen Stills qui, avec ses compères Crosby, Nash & Young et leur groupe Manassas, est au sommet des charts américains. Quand j'ai entendu cette chanson, je n'ai rien compris. Mais je pensais que cette voix était celle d'une chanteuse noire de blues, racontera-t-il. J'étais stupéfié. Je me suis dit, waouh, qui est cette fille? Ce 26 mars 1972, Stephen Stills se produit à l'Olympia. Il croise Véronique Sanson dans un ascenseur de la maison de disques. Quelques mots, quelques regards. Comprend-elle alors qu'elle est perdue? Elle coupe court à la conversation, s'enfuit, traverse en courant les Champs-Élysées. Il la rattrape et lui lance « Un jour, on se mariera ». Elle est touchée au cœur. Une secrète fureur amoureuse est en train de la consumer. Pas un mot à Michel Berger, avec qui elle continue de vivre et de composer, quitte à écrire une première chanson qui, on le saura plus tard, esquissait la silhouette de son amour américain. Sept mois de silence et de faux-semblants, puis ce déclic qu'elle avait connu une dizaine d'années auparavant au pensionnat anglais. Fuguer, partir, fuir pour exister et attraper sa chance. Sans bagage, mais avec son passeport dans la poche, elle dit à Michel Berger qu'elle sort pour acheter des cigarettes. Elle ne reviendra jamais. Personne n'a été mis dans la confidence de cette escapade. Ni ses parents, ni sa sœur Violaine, qui pourtant partagent tous ses secrets. C'est un saut dans le vide, un abandon qui l'effraie mais contre lequel elle ne peut pas lutter. Je n'étais sûr de rien, mais je savais qu'il fallait que je m'en aille. Quand on est amoureuse, on aime, plus rien d'autre n'existe. Les recherches conduisent la famille à New York où Véronique Sanson et Stephen Stills vivent ensemble. À Paris, Michel Berger s'occupait de tout et pour le moment, elle est paumée, se pose des questions. Elle va douter de son choix jusqu'au jour même de son mariage avec le rocker américain. Ce 14 mars 1973, elle pensera à s'enfuir avant cette cérémonie qui se tient en Angleterre, à Guildford, dans un manoir racheté à l'acteur Peter Sellers. Toute la pop a été invitée, les Stones, le Beatles, Ringo Starr, les Who. Finalement, Véronique Sanson décidera de ne pas gâcher la noce et se laissera dériver dans l'inconnu. Les années américaines vont être le tournant de la vie de Véronique Sanson. Une courte parenthèse, un peu plus de 3 ans, mais qui va la remodeler, la balafrer et faire d'elle une survivante. C'est l'époque d'un amour romanesque et sauvage avec Stephen Stills. Elle espère qu'il durera davantage que le temps d'une flamme. Le couple vit au milieu de nulle part. À Rollinsville, un bled paumé dans les neiges du Colorado. À 3000 mètres d'altitude, les vertiges sont ici fréquents et le froid permanent. La naissance de Christopher apaise un peu les doutes et les accès de mélancolie. Je ne regrette pas d'avoir quitté Michel Berger, dira Véronique Sanson à Paris Match. Je regrette la façon dont je l'ai fait, la lâcheté. Pour comprendre Véronique Sanson, il suffit de suivre ses chansons. Comme le petit poussé, elle y égrène son monde de signes, de soupirs et d'appels au secours. Véronique est une passionnariat tumultueuse et brutale, mais son armure est fragile. Elle n'a jamais su se protéger.
Je n'ai besoin de personne pour le rencontrer un jour.
elle se laisse facilement consumer par les interrogations, la culpabilité. À Hawaï, puis à Los Angeles, où la famille déménage, elle a retrouvé le soleil et sa peau a bruni. Elle n'a jamais été aussi éclatante, mais elle n'a jamais cessé de penser à Michel Berger. Les chansons qu'elle enregistre dans ses années 70 recèlent souvent des messages secrets, destinés à celui avec qui elle vivait à Paris. Avec son premier grand amour, cette correspondance par chanson interposée ne va jamais cesser. J'ai passé ma vie à écrire pour Michel. Chacune de mes chansons était un message pour lui. On ne s'est pas parlé pendant 10 ans. Je n'osais pas l'appeler. Du 11 au 16 février 1976, Véronique Sanson est sur la scène de l'Olympia. Ses parents sont au premier rang, avec Miu Miu et Patrick Juvet. Michel Berger n'est pas là, mais dans son nouvel album, l'une de ses chansons porte le titre suivant « Seras-tu là ?»
Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là ?
Elle lui répondra un an plus tard, de retour sur la scène de l'Olympia avec cette mélodie, Je serai là.
Je sais quand je vois ton image que je serai là, il n'y aura plus de mirage. Je serai là.
France Gall, qui vit alors avec Michel Berger, se sentira humiliée, lui en voudra. Mais Véronique Sanson n'exprimera jamais aucun regret. Elle n'a jamais été la gentille petite fiancée des Français. Elle n'a aucun compte à solder. Se moque de ce que racontera la presse à scandale, trop spontanée, trop volcanique, trop imprévisible. La vie est en train de l'endurcir. L'existence avec Stephen Stills est tout simplement devenue un enfer pavé des plus mauvaises intentions. Trop de drogue et d'alcool pour tout le monde.
C'est une histoire.
Ses bras portent des griffures et des coupures, des coups de poing, des coups de fourchette. Elle souffre. Les choses ne viennent pas que d'un côté, mais toujours des deux. J'ai mis des années à le comprendre. Moi aussi, je suis quelqu'un de très violent, dit-elle. Les chansons de cette époque sont celles d'une débâcle annoncée, où les aubes naissantes cachent toujours des espoirs de fuite et de départ au large. Elle vient spécialement à Londres pour enregistrer Vancouver sur le piano d'Elton John parce que la France est juste en face. Mon pays me manquait, je me sentais tiraillé, écartelé. Pour Véronique, le retour en France sera long à se dessiner. Captive malgré elle aux États-Unis où elle se bat pour avoir la garde de Christopher. Obligée de comparaître devant des juges qui le plus souvent l'accusent de tous les maux. Elle aurait pu tricher et accabler Stephen Stills, mais à chaque audience, c'est plus fort qu'elle. Elle dit sa vérité, quitte à payer au prix fort sa sincérité. « Moi aussi, j'ai mes torts », affirme-t-elle. « Moi aussi, je suis terriblement violente, alors qu'on me donnerait le bon Dieu sans confession. »
Confidentiel
sur RTL. Véronique Sanson.
Une heure à peine pour composer Ma Révérence, sa chanson de rupture définitive avec Stephen Stills. Sur la pochette de son 7e album, enregistré à Los Angeles, elle sourit comme coincée entre deux murs qui semblent se refermer sur elle.
Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était miracle.
réchappe, car en cette année 1981, les nuages américains s'éloignent.
Véronique Sanson est la dernière invitée de RTL 18h. Elle sera ce soir et pour 3 semaines au Palais des Sports. Véronique Sanson partage depuis 7 ans sa vie entre les États-Unis et la France, mais elle reste notre grande chanteuse de rock. Vous vous installez au Palais des Sports et vous y venez avec 35 musiciens.
Ah non, 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 pas 35 musiciens.
Combien ?
12 musiciens. Et puis ils sont, je sais pas, 25 dans l'équipe technique ou 30.
Oui, mais il y a aussi 36 tonnes de matériel, on m'a dit.
Ben oui.
Alors c'est pas une folle aventure, ça ?
Bah, il faut, pour le Palais des Sports, c'est une immense salle, et je crois que plus on a du matériel de son, et plus on peut donner un bon son.
Mmh. Ah, moi, je me souviens de vous, à l'Olympia, c'était terrible, les sièges en tremblaient.
Véronique Sanson est de retour en France, mais ce n'est plus la même personne. 3 ans auparavant, une série de concerts au Palais des Sports, une première pour une chanteuse. Cette série-là avait marqué les esprits. Le public avait retenu sa hargne, sa présence et son lyrisme. 2 shows par jour. Je ne voulais surtout pas me reposer, j'aurais perdu mon énergie. Personne n'avait remarqué, hormis sa sœur Violaine qui l'accompagne partout, personne n'avait remarqué les cicatrices, les terreurs, la fragilité de la rockeuse. L'alcool est désormais entré dans la vie de Véronique Sanson comme un mauvais génie qui soignerait ses bleus à l'âme. Elle boit beaucoup. Trop pour conjurer ses peurs, au point de tituber et de ne plus se souvenir de rien. Il lui faudra des années pour admettre sa dérive, s'en rendre compte, l'avouer publiquement, fréquenter les alcooliques anonymes, consciente que désormais boire un verre sera toujours en boire 100. L'alcoolisme n'est pas un vice, mais une maladie lourde que l'on contracte petit à petit, déclare-t-elle. C'est la douceur du danger, un piège empoisonné. En France, Véronique Sanson s'est vite isolée dans une ancienne ferme des Yvelines où le lierre court sur les murs de pierre. À Triel-sur-Seine, elle écrit, compose sur son vieux piano Bösendorfer qu'elle surnomme la Noiraude et reçoit ses amis. Le temps de retrouver Michel Berger, plus cette fois pour être amant, mais pour composer à nouveau ensemble.
Quelquefois je sens les mystères de toutes les choses que je comprends mal. Si j'étais toute seule sur terre à rechercher un idéal.
Les rencontres entre les deux ex-amants seront fugitives, même si ceux qui les observent ont le sentiment de voir 2 personnes qui se seraient quittées la veille, comme si Véronique était revenue à la maison après avoir acheté des cigarettes. Le dernier titre offert par Berger à Sanson sera bien malgré lui celui du scandale.
L'affaire Rushdie se complique en France de la façon la plus inattendue. Véronique Sanson annonce et annonce sur RTL qu'elle a décidé de retirer de son récital de l'Olympia une chanson intitulée « Allah ». Elle assure que le texte n'en est nullement blasphématoire, au contraire, mais dans la confusion déclenchée par la crise des versets sataniques, des excités lui ont adressé des menaces et Véronique Sanson a jugé de simple bon sens de ne pas faire courir de risques inutiles à son public, Laurence Aïni.
Et oui, Henri, c'est en plein milieu de la première de son spectacle hier soir, au moment où ses fans debout lui faisaient un triomphe, que Véronique Sanson s'est soudain avancée très sérieuse sur la scène de l'Olympia. « J'ai reçu des menaces anonymes. Pour votre sécurité ici, je ne chanterai pas Allah. Je ne veux pas que vous risquiez quelque chose. »
Allah déboule en pleine affaire des versets sataniques de Salman Rushdie. Véronique Sanson enregistrera la chanson, mais la fatwa lancée par les intégristes découragera l'Olympia d'organiser le lancement du disque. Il sera retiré des bacs.
Pour l'amour d'un homme, elle avait quitté l'Ouest en automne. Elle était un peu folle, elle ne craignait ni Dieu.
L'ultime lettre adressée par Michel Berger à Véronique Sanson. Ils s'éloigneront l'un de l'autre, enfouissant leurs chagrins respectifs sous des regards bienveillants. C'était bizarre, émouvant, dira-t-elle. Après cette chanson, je ne l'ai plus jamais revue.
Tout le monde dort, et pourquoi pas elle? Tout le monde dort, et pourquoi pas elle?
Un rôle de pianiste dans le film Le bal des casse-pieds, mais rien d'autre au cinéma. Une poignée de regrets pour ce monde dont elle n'a jamais osé pousser la porte, elle qui rêvait secrètement d'être actrice. combien de cassures, de vraies disparitions et de faux départs, de déchirures et de guérisons pour Véronique Sanson. Qui en 1989 bluffe tout le monde lors de la tournée des Enfoirés. La seule chanteuse à pouvoir donner la réplique à Johnny Hallyday et à chanter presque aussi fort que lui. Véronique Sanson, qui continue en ce milieu des années 90 à rester au sommet. Un mariage d'amour et d'amitié avec l'humoriste Pierre Palmade qu'elle a rencontré dans la bande à Coluche. 6 ans de complicité en faisant chambre à part pour peut-être, tout simplement, exorciser leur solitude respective. Avec les coups et les excès, Véronique Sanson est devenue une femme fragile. En cet été 1997, alors qu'elle passe des vacances en Corse, elle fait une embolie pulmonaire. On la croit perdue. La maladie ne va alors cesser de s'acharner sur ce corps qui montre moins de résistance. Elle est hospitalisée pour des problèmes sanguins. Elle ne boit plus, vit avec Christian qui l'aide et l'accompagne, mais sait que désormais, elle ne cessera de marcher au bord du précipice.
J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Le soir, je reviens de loin. Je reviens de loin.
Est-ce que je suis à la hauteur de ce que j'étais ? Demande-t-elle dans les moments de doute, même si elle continue à remplir les salles et que sur scène, d'un seul coup, sa silhouette se redresse et s'anime.
J'ai bien cru ne plus jamais sentir
Véronique Sanson est revenue de tout, des détours de la vie et des frontières de la mort. Les lignes droites de son visage ont été 1000 fois brisées et 1000 fois recollées. C'est une miraculée, même si elle se méfie des horloges et du temps qui passe. « J'ai peur du temps qui me reste », avoue-t-elle en frissonnant. La chanteuse a une retraite secrète où toutes ses craintes s'apaisent, où les mots lui viennent spontanément, où elle peut rester immobile. Depuis sa maison d'Ibiza, elle fait face au monumental rocher d'Esvedra. Il lui arrive de le contempler pendant des heures. La légende dit que Ulysse avait été attiré par le chant des sirènes habitant le rocher. La légende disait vrai. Aujourd'hui encore, à la tombée de la nuit, une sirène, sur les notes d'un piano, enchante toujours les lieux.
Quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais peine et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Voilà donc pour la vie mouvementée, vertigineuse, imprévisible de Véronique Sanson dans ce confidentiel sur RTL qui lui est consacré. Bernard de Bosson, vous qui la connaissez si bien, qui l'avez découverte, vous avez été son producteur. Est-ce qu'on peut dire que toute sa vie, Véronique Sanson s'est mise en danger ?
Elle a passé sa vie à se mettre en danger. Elle a passé sa vie, elle croit qu'elle joue avec le feu et qu'elle adore les lignes de crête et les précipites de chaque côté, quoi. Incorrigible.
Parce qu'elle a failli y laisser sa peau, on peut le dire.
Elle a failli y laisser sa peau plusieurs fois. Ne serait-ce que déjà, elle et sa sœur étaient des cinglés en moto et tout. Elle a toujours adoré ce genre de choses-là. Bon. Mais Véronique, c'est quelqu'un qui aime... Alors peut-être que maintenant, avec le temps, après tous les gadins qu'elle a pris, etc., elle commence, je pense qu'elle elle soulève le voile de la prudence et elle a peut-être un peu la conscience qu'elle a encore beaucoup de choses à dire, à faire, et pour ce faire, il faut qu'elle soit un petit peu vigilante.
Voilà. Alors le plus souvent, elle est dans sa maison des Yvelines.
Hein, ça, magnifique maison.
Cette ancienne ferme des Yvelines. Comment est-ce qu'elle travaille? C'est toujours autour d'un piano? Comment ça se passe?
Elle joue toujours autour d'un piano, mais elle travaille avec plein de gens autour d'elle. Elle a des gens comme Dominique Beltrán depuis plein de gens. Elle a deux choristes, mais elle a un choriste absolument magnifique. Et puis elle a un compagnon de vie qui est Christian Meillan, qui est un homme absolument formidable. Voilà, elle travaille et puis elle écoute beaucoup de choses. Elle écoute énormément de musique, elle est très très ouverte et elle s'intéresse à tout ce qui se passe. Elle a toujours eu cette oreille attentive à tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle a quand même toujours cette culture qui l'a façonnée et qui est un petit peu qui sont ses racines. C'est Chopin, c'est Gershwin, c'est Ray Charles, c'est le jazz, c'est le gospel. Voilà, elle a ses racines là, mais en même temps, elle écoute des gens nouveaux. Camille, elle trouve ça formidable. Et elle continue, elle s'est sortie avec une volonté extraordinaire de ce drame dont elle parle de façon tout à fait émouvante et magnifique. Je parle de l'alcool avec une authenticité, une sincérité qui lui ressemble bien, puisque c'est exactement ce qu'elle fait dans ses chansons.
Comment elle trouve la force aujourd'hui de remonter avec cette vigueur sur scène, de chanter encore comme elle chante, de se redresser comme ça sur une scène?
Parce que son public, c'est l'amour de sa vie, le grand amour de sa vie. Faut voir Véronique sur une scène, c'est juste bouleversant, quoi. Je vous en parle avec émotion. Moi, je l'ai vue, je sais pas, 3000 fois. Mais c'est hallucinant ce qu'elle donne. Et le public réagit de façon extraordinaire. Et ça, c'est ce qui l'a fait continuer. Elle me disait, tu vois, dès que j'arrive sur scène, là, c'est formidable, parce qu'ils peuvent plus me toucher.
À quoi rêve-t-elle aujourd'hui, Véronique Sanson?
Je sais pas à quoi elle rêve, Véro. Je sais pas à quoi elle rêve, mais je suis sûr, parce qu'on s'est pas parlé depuis 3 ou 4 mois déjà, je n'aurais pas l'impudence de vous dire elle rêve à ça, parce que je pense qu'elle a des rêves en pagaille. Et moi, je pense qu'elle rêve à la musique. Elle rêve de composer encore des choses formidables. Et je vais même plus loin, je pense qu'elle rêve de découvrir des nouvelles musiques.
Merci Bernard de Bosson pour vos confidences attendries, on l'a compris, sur Véronique Sanson. Justine Vigneault a préparé cette émission, François Toucheur l'a réalisée, merci à tous les deux. Demain à 14h30, un autre destin très déshabillé, celui de Hugh Hefner, le journal Playboy et ses bunnies. Tout de suite, c'est Laurent Ruquier que l'on retrouve avec toute son équipe pour le meilleur des grosses têtes sur RTL.
Vous écoutez RTL.